Média.
Média. Podcast.
Média. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de coaching en entreprise avec ma femme d'aujourd'hui qui s'est spécialisée dans l'accompagnement et le développement des équipes au sein des entreprises. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Saïda Nkhili, bonjour.
Bonjour Yasmine, bonjour.
Merci. Bonjour Lala Saïda, quel plaisir de t'entendre. Alors Lala Saïda, toi tu es coach en entreprise, entre autres, hein, tu as tellement de casquettes, mais aujourd'hui on va parler de ça. Tu es coach en entreprise, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené au coaching en entreprise? Alors que toi, tu avais fait des études de commerce, de finance, tu t'es retrouvé dans ce domaine-là de finance, dans le domaine de la banque. Qu'est-ce qui t'a amené vers le coaching en entreprise?
Alors, on commence fort là.
Yeah.
En même temps, c'est une question très pertinente. En fait, moi, ce qui m'a mené vers le coaching d'entreprise, c'est d'abord l'humain. D'accord, parce que j'ai vu au fil de mon parcours à quel point les problématiques de performance, de leadership ou de management sont souvent liées à un manque d'alignement, si j'ose dire, tu vois, un manque d'alignement entre les valeurs personnelles, les exigences professionnelles et le sens du travail. Voilà. Et dans ce schéma, bien ce contexte, le coaching m'est apparu comme un espace pour recréer cet alignement, accompagner les individus et les organisations, surtout vers plus de clarté, de cohérence et d'efficacité durable, parce que moi j'y crois beaucoup à l'efficacité durable et c'est ça qui fait aboutir toutes les entreprises.
Alors ça, tu l'as vu. Alors, est-ce que tu l'as vu en banque? C'est-à-dire par rapport aux gens qui viennent, par exemple, prendre des crédits pour lancer un business? Comment tu as repéré le besoin d'être accompagné quand on lance son business?
En fait, là, on est en train de parler du coaching au sein de l'entreprise.
Au sein de... Ok. Donc, Anna, pour moi, il y a une... J'ai fait une forme de... Enfin, j'ai mélangé les deux secteurs.
Mais ça ne se mélange pas, tu sais, ça a tellement une relation très très forte parce que moi, pour répondre à ta question, où est-ce que j'ai constaté le plus ça, c'est que moi j'ai aujourd'hui 18 ans d'expérience professionnelle et j'ai évolué dans plusieurs secteurs d'activité, les banques, organismes de crédit, institutions financières de finances inclusives, transfert d'argent, l'automobile, tu vois. Et à chaque fois, le constat est le même, que ce soit au sein de l'entreprise, que ce soit la relation entre l'entreprise et le client. Et aussi, j'ai eu une aventure entrepreneuriale où je faisais en exclusivité ça, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs à mener à bon leur projet, que ce soit par le biais des incubateurs, soit directement avec moi.
Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allée te former?
Oui, bien entendu. En fait, ça, c'est le fruit de mes années d'expérience, bien entendu.
Ouais.
J'ai fait aussi beaucoup de travaux de recherche dans ce sens. J'ai écrit beaucoup d'articles. J'ai fait aussi beaucoup de voyages dans ce sens, à travers le monde, de l'Asie jusqu'à l'Afrique, pour m'ouvrir sur d'autres cultures, d'autres esprits entrepreneuriaux, si j'ose dire, pour que je sorte un petit peu de l'environnement actuel et prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe même ailleurs. Tu vois, parce que parfois, tu te poses des questions, est-ce que oui, j'ai tiré là, non ou là partout. Et donc, ça m'a permis vraiment d'élargir ma vision et de comprendre l'autre aussi dans ses contraintes, de comprendre les entreprises, de comprendre que le contexte, l'environnement et la culture, ils jouent un rôle très, très important. Dans les organisations, leur management, leur gestion, l'humain aussi, il est différent. Mais l'humain, par contre, il n'est pas aussi différent que ça. Bien sûr qu'il est conditionné par l'environnement, par la culture locale, mais les contraintes personnelles, dans le monde salarial ou entrepreneurial, parce que moi, j'ai les deux angles, entreprise et entrepreneuriat. C'est le même, la vérité, c'est le même. C'est les mêmes problèmes, les mêmes, parfois les mêmes frustrations, parfois les mêmes mobiles de motivation. Ça, c'est universel parce que là, on parle de l'humain.
Alors
Quel que
justement,
soit l'environnement, les contraintes, etc., l'humain reste l'humain, quoi.
par rapport à ça, quand on
Oui.
est dans un environnement professionnel comme une entreprise, on demande aux gens d'être professionnels, d'avoir une posture professionnelle. Est-ce que c'est possible d'avoir une posture professionnelle, de la garder, quand on est en contact avec des gens pendant plusieurs années au point d'oublier que c'est un environnement professionnel. Ah, tiens, dès que l'expression dit chasser le naturel revient au galop.
Un galop.
Ah.
Oui. Mais ça, oui, je comprends ta question. Je la comprends et c'est pour ça que moi je parle beaucoup des valeurs, parce que c'est les valeurs qui sont le socle. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va mettre en place des valeurs qui correspondent à leurs objectifs, à leurs orientations, à leur vision, à leur mission. C'est bon. Et l'entreprise, elle va mettre un cadre. Un cadre, c'est le socle de toutes les actions professionnelles. Et lorsqu'elles sont claires et partagées, elles orientent aussi les comportements de l'individu. Tu vois ce que je veux dire? Avec le naturel, elle est là, mais dans le cadre professionnel, elle est plus ou moins cadrée et elle est là pour répondre aux valeurs de l'entreprise et ses orientations.
Alors, mais pas
Mais là où
vas-y.
il y a le bémol, c'est que les entreprises, eux-mêmes, elles ne respectent pas ces valeurs. Donc, maintenant, il y a une grande mode de mettre en place les valeurs, etc. Mais malheureusement, ça reste beaucoup plus des slogans et qu'autre chose. C'est-à-dire que les entreprises, elles peinent aujourd'hui à les faire vivre réellement, à les porter déjà par les managers.
Alors justement, c'était ma question parce que quand tu dis les entreprises peinent à les faire vivre, l'entreprise, c'est des murs. Qui est supposé faire vivre ces valeurs? Qui est supposé en fait les distiller au sein des équipes?
Bah, les managers, le top management, bah, c'est ça. Au fait, c'est comme l'éducation des enfants. On éduque les enfants par l'exemple. On peut beau dire à nos enfants de ne pas de lire, de consommer plus de livres que des téléphones, mais si on nous voit H24 sur nos téléphones, ils ne vont pas le faire.
Oui.
Et c'est la même chose dans l'entreprise. Si ces valeurs-là, elles sont portées, appliquées et respectées aussi par le top management, bah forcément, le reste, il va suivre. Sinon, ça devient une source de frustration beaucoup plus qu'autre chose.
Oui.
Et ce qui se passe malheureusement dans la plupart des entreprises. Parce que quand on voit afficher, par exemple, la valeur de l'innovation, alors qu'au sein de l'entreprise, les collaborateurs, ils n'arrivent pas à innover quand ils proposent quelque chose de nouveau et d'innovant. Et soit il est rejeté, soit il est mis au placard, soit il n'est pas vu à sa juste valeur. Eh bien, bonjour la frustration et l'eau, l'innovation.
Alors, dans ce
Ça arrive.
cas-là, c'est même ces managers, il faut les former, en fait.
Ah oui, ça c'est le point de départ. Et surtout que récemment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en pleine transformation, et on a beaucoup. Le contexte et l'écosystème le permet en ce moment, surtout les entreprises qui ont relation avec les finances. Et donc, moi, à mon sens, ça commence déjà par transformer les managers dans un premier lieu. Les transformer, les coacher, les accompagner dans ce changement, les aider à avoir une posture managériale en bonne et due forme et d'être aligné justement avec cette transformation.
Absolument. Alors, tu as dit tout à l'heure, c'est l'humain qui m'intéresse. Cette phrase, je l'entends tout le temps dans la bouche des personnes qui vont vers le développement personnel. Quand tu dis c'est l'humain qui m'intéresse, est-ce qu'on peut creuser davantage ce que ça veut dire pour toi, Lala Saïda?
Pour moi, écoute, tu as dit un truc, c'est-à-dire les personnes qui évoluent dans le développement personnel. Déjà, moi, je valide pas trop le développement personnel. Après, on peut en parler
Dans
après
quel
en long et
sens?
en large. je sais pas, c'est une terminologie qui, que je n'ai jamais acceptée. Et surtout aujourd'hui, c'est un peu perché, si j'ose dire.
Ok,
Si on
mais toi,
reste
tu es dans le coaching
humain.
en entreprise. C'est une forme de développement personnel.
C'est une forme de développement professionnel à travers la personne qui est l'humain. Et donc, quand j'ai dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal. C'est avec l'humain qu'on interagit, c'est avec l'humain qu'on veut réaliser des performances, c'est avec l'humain qu'on veut réaliser des choses. Tout passe par l'humain. Si on ne met pas l'humain au centre, ben c'est le capital. Aujourd'hui, on
Bien
parle
sûr.
du capital humain, c'est le capital de toute entreprise. C'est évident, c'est inévitable. Ce n'est pas que pour moi. Après, quand je parle de moi, j'ai toujours été passionnée par l'humain parce que l'humain, c'est une créature extraordinaire dans sa complexité et dans son développement, justement, parce qu'on est des êtres de développement et de changement. Et quand tu observes beaucoup, moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Je m'observe d'abord. Et le fait d'observer les autres, ça te donne une data extraordinaire sur le comportement, sur les interactions, sur les attentes, sur ce qui peut motiver cette personne, quel langage je peux parler avec cette personne, quelle posture je vais avoir avec telle personne. Parce qu'on est très différents l'un à l'autre.
Absolument.
Et malheureusement, aujourd'hui, on constate qu'il y a un traitement ou là, un comportement ou là. C'est-à-dire que les entreprises, elles voient l'humain comme tout le monde est
Coaching
pareil.
help, exactement, exactement.
Alors que non, non, absolument pas. Si on respecte la personne dans sa nature, on peut juste que en tirer le maximum et le meilleur et des choses magnifiques.
Alors
Et
toi, ça a
c'est ça
changé
que
quoi dans ta façon de faire au quotidien? Parce que tu accompagnes les autres, mais ça t'a transformé aussi, j'imagine.
À moi, oui, bien entendu, parce que dans mes interactions avec l'autre, j'apprends déjà sur moi-même. J'apprends sur moi-même, j'évolue énormément à travers l'autre. Parce que si on part du postulat que chaque personne est une contribution pour l'autre, et chaque personne, elle a quelque chose à t'apporter, à t'enseigner, à te partager, et ben, c'est ça la richesse humaine. Donc moi, aujourd'hui, franchement, je me sens déjà riche. Et je m'enrichis davantage et j'ai très faim, j'ai tout le temps très faim pour apprendre de l'autre dans toute sa composante, dans toute sa différence. Et c'est ça le charme. Et la vérité, ça m'a apporté beaucoup, énormément, énormément.
Dans le quotidien, justement, est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail? Qu'est-ce que
Oui.
tu faisais avant et qui a changé dans ton approche à toi grâce à toutes ces choses-là? Et d'ailleurs, tu as même écrit un livre.
Oui, bien entendu. Oui, j'ai écrit un livre, mais au fait, sur le plan humain, le coaching, ça aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à réduire les tensions, d'accord? À redonner du sens à beaucoup de choses à travers l'autre et à renforcer la confiance. Tu vois? Et au sein de l'entreprise, les collaborateurs, quand ils sont coachés, accompagnés, écoutés. Parce que quand on dit coachés, c'est juste qu'ils sont vus, ils sont respectés dans leurs différences, ils sont validés par rapport à certaines choses, et voilà, ils sont écoutés. Et donc, quand les collaborateurs se sentent écoutés et alignés, ils sont naturellement plus impliqués et plus performants. Et donc, moi, aujourd'hui, dans tout ce que j'entreprends, et quand j'ai forcément, j'attends un retour, j'attends quelque chose, j'attends une performance, j'attends un résultat, j'attends un retour sur investissement. Et donc, ce retour sur investissement ou là, mes attentes, je ne peux les avoir qu'à travers ce comportement de coach, j'ose
Exact,
dire. Et tout le monde
exact.
peut être coach de lui-même,
Oui,
d'abord, et tout le monde peut être coach de l'autre.
hein.
Oui, il suffit juste d'avoir quelques outils, il suffit juste d'avoir une certaine posture et surtout, surtout, surtout ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la critique. Voilà.
Alors, sans rentrer dans le contenu du livre, parce que je sais que tu ne veux pas
Oui.
en parler maintenant, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers cette genèse? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire?
d'écrire un livre globalement ou là, ce livre?
Ce livre, qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire?
Alors, moi, je voulais toujours écrire un livre ou des livres. Vous voyez,
okay.
C'est un projet que j'ai attardé depuis un moment. Mais récemment, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis concentrée sur ce livre. Et ce livre, pour moi, c'est un accouchement. Vous voyez, et ils disent les créateurs ou bien les artistes, parce que je peux dire aussi que je suis artiste dans l'âme, je suis aussi styliste et je fais appel à ce côté artiste chez moi pour écrire ce livre. Et alors, je disais, c'est un accouchement parce que les artistes ou bien les gens qui créent quelque chose, qui écrivent quelque chose, ils le font généralement dans la douleur. Dans la douleur ou là, quand il y a vraiment une situation qui les dépasse ou là, qui ne leur plaît pas ou là, qu'ils ont un message à transmettre. Et donc, moi, ce livre, déjà, je l'ai nommé les couleurs de l'entrepreneuriat. Et c'est un livre qui propose une autre lecture de l'entrepreneuriat qu'on n'a pas l'habitude de lire, j'espère en tout cas. Moi, je le vois comme ça. Donc, je parle de l'entrepreneuriat dans tous ses aspects, pas uniquement comme un projet économique, mais comme un voyage intérieur qui est profondément lié aux valeurs, à la famille, à la culture et à la responsabilité citoyenne. Et l'idée derrière, en fait, c'est de... tu sais, c'est la première fois que je vais parler de mon livre comme
oui,
ça.
Oui.
Donc, je disais, l'idée est de montrer qu'entreprendre, c'est aussi une manière de se positionner dans la société. Et je pense que c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que quand je parle d'entreprendre, je parle dans mon livre aussi de l'entrepreneuriat. Tu peux être aussi collaborateur salarié et tu peux être entrepreneur au sein de ton entreprise. Bien sûr, si l'entreprise le permet. Et je parle aussi de ça et de cette ouverture que les managers mettent en place. Et donc, ça te donne aussi une posture et un positionnement dans la société. C'est-à-dire que ce n'est pas réduisant. Il y a une expansion, c'est-à-dire que tu n'es pas juste un tel avec ce titre, avec ces tâches bien précises, avec une... ça me fait toujours rigoler, ils écrivent toujours... comment on appelle, Hadak, quand tu as un titre ou un périmètre que tu gères, la fiche de poste, voilà. Et tu te limites à une fiche de poste, voilà, moi je dois faire ça, et le monde ne me demande pas autre chose à part ça. Mais mon Dieu, c'est hyper limitant, voilà, c'est hyper limitant, ça te coupe dans ton élan, ça coupe ta créativité.
Mais je pense qu'ils font ça pour respecter, en fait, je pense qu'ils font ça aussi, ça a du sens pour protéger le périmètre, mais dans le sens, on a différents profils au sein de l'entreprise. Il y a celui qui est entreprenant. Donc, l'entrepreneur en interne, c'est-à-dire celui qui vient avec des idées, qui est motivé, non, peut-être que l'autre aussi est motivé, mais celui qui vient avec des idées, des initiatives, qui applique et tout ça. Et d'autres qui sont ils sont peut-être beaucoup plus dans l'opérationnel pur, c'est-à-dire l'exécution de tâches récurrentes, régulières, et qui peuvent se sentir menacés par l'entrepreneuriat de l'autre. Peut-être c'est pour ça qu'il y a des fiches de poste.
Oui, mais je nie pas l'importance de la fiche de poste, mais c'est juste que je dis qu'aujourd'hui, le collaborateur, il doit sortir de ça, de ce cadre, et le fameux « think out of the box », quand bien même ton poste peut être très figé et très opérationnel.
Limité,
mais dans ton rôle, tu peux créer.
Tu vois ce que je veux dire.
Faire les choses à ta manière, tu peux les adapter à toi, tu peux avoir aussi un minimum d'agilité pour gérer des situations difficiles, parce que dans n'importe quel poste, il y a des imprévus, des situations difficiles, il y a des réactions à chaud qu'il faut mettre en place sur place, et c'est ça qui fait des personnes des leaders. Un leader, c'est pas celui qui est à la tête d'une entreprise. Chaque personne est leader dans son poste.
Oui.
Et les leaderships, c'est ça, pouvoir et se permettre, déjà, le pouvoir, il est là, tout le monde peut le faire, mais surtout se libérer et se donner, se permettre ça, c'est-à-dire dire oui, aujourd'hui, face à cette situation, je n'ai pas besoin forcément de faire intervenir mon chef ou le HEDA ou le donateur, mais je peux intervenir de cette manière et de cette manière. Et l'objectif final, c'est de dépasser la situation, de trouver une solution, etc. J'ai appris un truc avec le recul, c'est qu'on a beau mettre en place, on a essayé de mettre en place des résolutions, etc. Mais après, tu sais, on vit tellement dans un monde imprévisible, incertain, ambigu, complexe. C'est le monde VUCA. Je parle toujours de ce monde VUCA. Et donc, non, j'ai ma vision des choses, d'accord? Je connais ma direction. Et après, les chemins diffèrent. Parfois, il y a un point A, point B. C'est facile. Parfois, pour aller juste de point A à point B, tu vas faire le tour de tout l'alphabet, après revenir à B. Je vois ce que je veux dire. Par contre, ce que je fais, ce que je recommande humblement, c'est qu'il faut être juste outillé pour pouvoir faire face à ces imprévus, à ces incertitudes, à ce manque de visibilité et faire preuve d'adaptabilité, de résilience, d'ouverture d'esprit. Et apprendre au maximum parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui va à une vitesse juste extraordinaire. Donc, maintenant, à l'ère de l'IA, il faut apprendre les outils de l'IA, il faut progresser avec ce monde pour qu'on ne soit pas dépassé. Et ce sont des outils qui sont là pour nous, pour nous aider à atteindre nos objectifs.
Mais tu l'as dit, j'ai ma vision. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller déjà.
Oui,
J'ai ma vision.
clairement.
Voilà.
J'ai ma vision, j'ai mes objectifs, ils sont là. Après, résolution, on s'est compris.
On s'est compris. Laila Saïdan Khili, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous toutes ces choses-là. Très, très bonne journée. Onharkum
Merci.
Brok.
Merci à toi
Merci,
aussi.
Laila. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.